Mireille Massy. Aujourd'hui, notre invité, Jacques Chabot.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir. Bonne écoute!
Cinq minutes, 15 minutes. maintenant, dis-nous à quoi il va ressembler dans une heure. Dans une heure d'expérimentation. Puis là, on va voir s'il n'y a pas la bonne réponse, s'il nous sort quelque chose qui n'est vraiment pas... Ça veut dire qu'on l'a mal éduqué. Ça veut dire qu'il faut retourner en arrière. Il y a quelque chose dans le processus qui n'est pas compris. Et avec le deep learning, ils font un entraînement eux-mêmes, les ordinateurs, puis ils sont capables. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on perd un peu leur raisonnement là, avec leurs neurones informatiques. Mais donc, il faut revalider, il faut retourner en arrière. C'est très, très compliqué. Puis, ça fait quand même quelques années qu'on travaille là-dessus.
Vous travaillez là-dessus avec qui, hein? Quel genre d'expertise?
Avec Xavier Maldab, qui est professeur en génie électrique et génie informatique à l'Université Laval. Donc, c'est lui qui a été assez fou pour sauter dans le projet avec moi. Chacun nos deux équipes. Puis, c'est ça. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que les ingénieurs, c'est la courroie de transmission avec l'ordinateur. Nous, on a le message, mais eux, il faut qu'ils traduisent le message pour que l'ordinateur le comprenne et que l'ordinateur soit capable de travailler avec nous et de nous aider. Sauf que pour ça, il faut que les ingénieurs comprennent aussi à 100%, et ce n'est pas des archéologues, bien sûr, donc nous, on trouve que c'est simple ce qu'on fait, parce qu'on est là-dedans tout le temps, mais en fait, ce n'est pas simple du tout. Mais il y a d'autres problèmes, en fait, qui se sont présentés. C'est qu'on veut de la prédictabilité, je crois que c'est un mot, ça.
On comprend.
Ouais, c'est sûr, quand on se comprend. Mais il y a plein de choses imprévisibles. C'est-à-dire qu'une pierre, quand on l'utilise, à un moment donné, elle va casser. Un petit bout qui va casser. Mais nous, quand on fait nos expériences, on sait que la pierre, elle va casser. On va s'adapter, on va regarder les traces, on va comprendre qu'il y a eu une petite cassure. Mais l'ordinateur, lui, il suivait l'évolution du bord tranchant. Puis là, le bord tranchant, il est modifié morphologiquement. Puis là, il comprend tout. Il dit, c'est pas la même pierre. Non, c'est toujours la même. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc là, il y a cet aspect-là, vraiment imprévisible, de cassure aléatoire, qui peut faire brouiller complètement les pistes pour l'ordinateur. Et ça, les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, on revenait toujours avec ça, c'est parce que c'est normal, n'importe quel outil, objet qu'on utilise, c'est... Mais il faut qu'ils comprennent que lui, l'ordinateur, lui, il voit des 0 puis des 1, là, parce que l'ordinateur, c'est aveugle, il faut le guider pas à pas. Puis cet aspect-là qui est très difficile. Il y a une autre chose qui est compliquée, c'est que on pense toujours que c'est accumulatif. C'est-à-dire que si j'ai utilisé un objet pendant 10 ans, il est forcément plus usé, il y a forcément plus de traces qu'un objet qui a travaillé pendant 10 minutes. Pour certaines fonctions, avec certaines matières premières, c'est pas vrai. Il y a des séquences d'accumulation de traces, puis il y a des séquences de régression. C'est-à-dire que je pourrais travailler avec un objet pendant 30 minutes pour me rendre compte que c'est au bout de 10 minutes qu'il y avait le plus de traces. Parce que justement, quand l'objet s'égrène et perd des petits morceaux, pas nécessairement des grosses cassures, c'est les traces qui tombent au sol.
Ouais.
Parce que nous, on regarde l'usure, mais c'est les traces qui tombent à un moment donné. Supposons qu'on travaille des pots avec un grattoir, mais à un moment donné, le front avec lequel on travaille, sur le front de l'objet, il va reculer. Ça veut dire qu'on peut avoir moins de traces. Et ça aussi, c'est dur à faire comprendre dans l'ordinateur. Que là, il y a moins de... Supposons qu'on est rendu à une demi-heure d'utilisation, mais moins de traces qu'il y en avait à 10 minutes. Puis chaque matière première, encore une fois, je reviens à la difficulté d'apprendre des langues, chaque matière première réagit différemment. Donc on est parti avec des choses très, très modestes. Une matière première, un travail, là on a pris le travail de l'os comme exemple, puis on voudrait un objet prédictif, une espèce de système qui pourrait nous aider. On ne veut pas nous remplacer, on veut juste se faire aider. Et après, avec le moins de paramètres possible. Parce que si on met trop de paramètres, on se perd. Donc, il faut y aller très, très, très modeste. Puis quand on aura réussi ça, on a quand même avancé beaucoup. Quand on aura réussi ça, on veut étendre à plus de fonctions, à plus de matières premières. Ce sera un projet qui pourrait durer des années, des années, des années. Mais c'est ça. Des fois, je fais en blague de mes collègues. Finalement, l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde, sauf nous. Parce que c'est très compliqué ce qu'on fait apparemment.
Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet-là?
Ah, ça fait qu'on leur fournit des tonnes de données, des descriptions, puis c'est ça, c'est, la balle est un peu dans le camp des collègues. Oui, c'est ça. C'est très, très, très complexe. En fait, je savais que ce serait difficile. Je me rappelle les premières années que j'avais approché des gens, notamment en physique, des gens spécialisés aussi dans la détection de mouvements, toutes sortes d'approches. Il y avait un peu peur de sauter là-dedans, parce qu'ils voyaient que c'est pas simple, parce qu'il y a tellement de
facteurs.
Ouais, on avance, on régresse, puis il faut enseigner pourquoi on a régressé. Ben, je ne dis pas qu'on ne réussira pas, mais c'est...
un projet de vie.
Mais ça pourrait être aussi en même temps un exemple de quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Fait que finalement, si on ne réussit pas, bon, on va réussir à prouver qu'ils ne peuvent pas tout faire.
Ça sera une conclusion scientifique quand même.
Oui, c'est ça. Mais j'aimerais mieux qu'ils réussissent.
Oui,
ouais, c'est sûr qu'on aimerait bien, parce que ça nous aiderait.
Ouais.
Parce qu'au-delà des expérimentations, il y a beaucoup d'objets qu'on n'a pas besoin de ça, en fait, parce qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Ça existe depuis des années, la traçologie. Mais moi, c'est quelque chose que j'avais pensé au point de départ. Là, des fois, une idée, ça part de quelque chose de simple. Les logiciels là, où on prend, supposons, une photo de nous quand on est bébé, une photo quand on a 5 ans, une photo quand on a 15 ans, 20 ans, là, ils sont capables de prévoir à peu près, c'est pas identique, mais c'est semblable. Supposons qu'est-ce qu'on va, de quoi on va avoir l'air quand on va avoir 80. Ben, moi, je voulais la même chose pour mes outils en plan. Quand ils ont 0 minutes, c'est 0, ils sont immenses. Puis c'est la même chose, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Sauf que des fois, leur visage change beaucoup. Puis ils reviennent en... c'est pas simple comme ça. Là. C'est pas du plus jeune au plus vieux. Il y a
Ils ont eu plein de lifting.
Oui, c'est un peu ça. Oui, parce qu'ils partent à zéro à un moment donné. Parce que les bases sont tombées. Puis, mais c'est ça, c'est un aspect qui... Et moi, je trouvais... C'est comme ça que je l'expliquais, parce que je me disais, ben ils sont capables de faire ça pour des visages humains. Ben là, c'est la même chose, parce que c'est sûr qu'ils ont des paramètres qui vont mesurer. Ça se passe vite. Puis là, ils arrivent à dire, c'est ça. Et moi, je voulais exactement la même chose avec la pierre.
Il y a bon espoir, parce qu'il y a X années, on n'aurait jamais pensé qu'on verrait le visage du bébé à 3 ans. Non.
Hein. Même quand j'en parlais il y a une dizaine d'années, c'était comme impossible à faire. Parce qu'il y avait tellement... Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour prendre... Parce qu'en fait, ça leur prend beaucoup de photos. Presque trop maintenant. À l'époque, les ordinateurs ne pouvaient pas en prendre tant que ça. Fait qu'il fallait fonctionner avec des échantillons. Puis un échantillon ne donnait pas assez un bon panorama, si on veut. Fait que maintenant, c'est plus ça le problème. Il n'y a pas de problème, le big data, là, ils sont capables d'en prendre plus qu'on peut en fournir. Mais c'est la complexité de l'évolution de ces traces-là. Parce que l'évolution dans notre tête, c'est toujours du moins bon au meilleur. Même en archéologie, quand on étudie différentes cultures, différentes technologies, différents savoir-faire, on se rend compte que c'est pas nécessairement toujours du moins bon, mais alors c'est ce qu'on a besoin.
Oui.
Dépendamment du besoin, l'être humain, ben, il va faire quelque chose de complexe et pas complexe. Mais c'est un peu la même chose dans ce cas-là aussi.
Je comprends que pour ces projets-là, vous êtes un peu dépendant là, des ingénieurs. En attendant que les ingénieurs trouvent comment passer à l'autre étape, c'est quoi les projets qui sont sur votre horizon à court et moyen terme?
J'ai toujours plusieurs projets sur mes problématiques dans l'ancien monde. C'est-à-dire que je travaille toujours depuis une vingtaine d'années au Caucase, sur le site d'Aknachem, c'est le plus ancien site néolithique dans cette région-là. Je travaille aussi en Bulgarie sur du calcolithique, des découpages de longues lames extraordinairement bien faites d'un point de vue technologique. Aussi, j'ai un projet aussi en Iran sur un site qui s'appelle Attachi. Je suis en train de travailler en ce moment avec une collègue là-bas. Le matériel est ici. Des analyses traceologiques aussi dans ce cas-là. Puis j'ai un projet comparatif entre le nord de la Mésopotamie et le Levant Sud, avec un collègue de Columbus en Ohio, Richard Yerkes. On a un projet de comparer ce matériel-là, autant du point de vue du savoir-faire que des fabriqués, que des fonctions. Puis, c'est ça, à côté de ces projets-là, depuis quelques années, ça me tient beaucoup à cœur, c'est mes projets méthodologiques. Parce qu'au-delà de ce que moi je fais, je pense toujours au laboratoire. comment on peut aider un peu tout le monde? Parce que toujours, ce matériel-là est universel. Ben, travaillons aussi de façon universelle. Donc, je veux continuer à ajouter des choses tout le temps, augmenter le référentiel expérimental. Ben, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'approche méthodologique. Puis la même chose avec le projet qui s'appelle Tonus, le projet de réalité de l'intelligence artificielle. Donc, on équilibre entre des projets d'analyse, si on veut, puis ça a beaucoup de formation avec les étudiants. On équilibre entre les projets culturels, donc d'analyse, et les projets méthodologiques à plus grand déploiement là, qui peuvent servir à tout le monde.
Oui, une sorte de leg scientifique.
Oui, ben, je pense que c'est ça qui est important, que le laboratoire il puisse servir à tout le monde, dans le sens où cette expertise-là, je veux aller un cran plus haut avec les référentiels, c'est-à-dire un niveau collaboratif probablement aussi.
À l'échelle du mondial.
Oui, oui. Éventuellement que ça puisse être ouvert, ben, c'est sûr que, faut que les gens soient capables de lire les images, mais que d'autres collègues, on n'est pas beaucoup en... Il y a peut-être une trentaine de personnes spatiologues dans le monde. Mais il y a une grande demande, parce que c'est le coffre à outils de culture, autant paléolithique, mésolithique, néolithique, bronze, âge du bronze, il y a beaucoup de lithique. Puis je travaille entre autres avec une collègue en Bulgarie pour ça. Puis je voudrais qu'éventuellement les référentiels soient accessibles d'une certaine façon, les images, à d'autres spécialistes. Les consulter, les enrichir.
Mm-hmm.
Ce sera un échange aussi que pourrait accueillir d'autres. Parce que c'est idéalement, c'est de ne pas travailler en vase clos, mais de pouvoir communiquer. C'est sûr que tout ça est très spécialisé, puis des fois, c'est difficile de tout incorporer ensemble.
Mm-hmm.
Mais c'est ça.
Je comprends, c'est que ce soit un levier les uns pour les autres, et
ouais.
Qu'il n'y ait pas des doublons, mais au contraire, qu'on s'enrichisse mutuellement.
Oui, c'est ça. Et ça évite, parce que c'est tellement long à développer, de toute façon, et ça évite à quelqu'un d'autre de réinventer la roue, en guillemets, dans son coin, alors que ça, on l'a déjà fait.
Mm-hmm.
Mais passe à l'étape suivante, tu profites de ce qu'on a fait, puis va plus loin.
Un petit tout plus loin. Suite. Mm-hmm.
C'est comme ça, ça fait que les recherches vont... Parce que si tout le monde... Mais il faut toujours avoir une phase expérimentale ou de référentiel quand même, comme je l'expliquais au début, peu importe ce qu'on fait, parce que c'est pas une recette, mais c'est comme on a la base. Toujours cette base-là qui nous permet de partir vers quelque chose, mais tellement de cultures dans le monde qui chacune on fait les choses à leur façon. Les gens étaient un peu face à un peu tous les mêmes défis, peu importe où les êtres humains étaient dans le monde, mais selon l'environnement, la température, les matières premières disponibles, toutes sortes de facteurs qui font en sorte que même si notre but c'est de vivre et d'améliorer toujours nos conditions de vie, peu importe où on est, ben on n'a pas les mêmes contextes.
Mm-hmm.
Donc dans chaque contexte, les gens ont fait les choses à leur façon. Ça, toujours, ça se ressemble si jamais...
Exactement la même chose.
Mm-hmm. C'est une belle richesse, en fait.
Absolument. Mm-hmm. Jacques Chabot.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.